Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et nous voici de retour en Inde aujourd'hui. Après une émission consacrée à la place de la langue et de la culture française dans le pays, il est temps de découvrir dans ce deuxième volet la scène littéraire indienne contemporaine. Invitée au salon Livre Paris, annulé en mars suite à la pandémie, l'Inde est en effet en plein essor éditorial avec un nombre grandissant d'écrivains et ce dans plusieurs langues, à l'image de la réalité du sous-continent puisque la population 1 milliard 325 millions d'habitants sur une surface de 3 287 000 m2 parle 23 langues officielles et plus exactement 1652 langues régionales. À ce titre, de New Delhi à Mumbai, en passant par Calcutta, je vous propose d'écouter des auteurs qui écrivent en hindi, en tamoul, en bengali et en anglais, des romans, de la poésie, des essais, bref, un panorama des publications commenté aussi par des éditeurs, libraires et experts rencontrés sur place. Et c'est à New Delhi que commence le voyage avec Jaya Bhattachardi Rose, consultante internationale dans le monde de l'édition et qui fait ici un état des lieux du marché indien.
The Indian market over here is actually many markets within one market.
Le marché indien ici est en fait constitué de plusieurs marchés en un seul. C'est un sous-continent avec de très nombreuses langues et chaque langue suffit à pourvoir un marché éditorial à lui tout seul. Cela dit, c'est un pays très vaste et l'on estime la valeur de tous ces marchés à 6,1 milliards de dollars. Et cela continue de s'accroître parce qu'ici, il y a un appétit vorace pour les livres. Il y a beaucoup d'endroits en Inde où il n'y a pas de libraire, où il est difficile de se procurer des livres, mais avec les nouvelles technologies en ligne, les choses changent et changent plutôt rapidement. Les ouvrages de non-fiction se vendent très bien, tout ce qui concerne la spiritualité, le développement personnel et bien sûr les livres scolaires et académiques.
Est-ce que vous diriez que l'anglais est la langue majoritaire des publications en Inde ou pas ?
English certainly has a great deal more visibility in the metropolises.
L'anglais a certainement une visibilité plus importante dans les grandes villes, mais un grand nombre de langues locales en ont également. Il y a un réseau de librairies, de clubs de lecture, de services autour de livres propres aux régions, très dynamiques, avec aussi des festivals littéraires. On n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que si les livres en anglais se vendent, c'est aussi vrai pour les autres langues. Ce qu'on ne remarque pas forcément, mais que j'ai constaté en 30 ans, c'est qu'il y a une explosion. Et j'insiste sur ce mot explosion, du nombre d'écrivains en Inde. C'est impossible à dire combien, c'est le problème, car il y en a tellement de nouveaux qui arrivent, mais c'est un fait.
But impossible to say how many writers. That's difficult to say because there's so many coming up. So that's the thing.
Une profusion littéraire immédiatement visible à Fakir Chand, la plus vieille librairie de Khan Market, un lieu étonnant, sorte de caverne d'Ali Baba, tenue par Anoop Kumar, avec des piles de livres du sol au plafond. Mais combien y en a-t-il exactement ?
I never dare to count them.
Je n'ai jamais osé tous les compter.
Mais en majorité des livres anglais ?
English and Hindi.
Oui, en anglais et en Hindi.
These are the two languages.
Ce sont les deux langues principales. Avant, c'était les auteurs anglais dans les années 90 qui étaient majoritaires. Mais maintenant, les écrivains indiens les rattrapent. Depuis 10 ans, les auteurs comme Amitav Ghosh, Arundhati Roy, Chitra Banerjee, qui a écrit Le Palais des Illusions, et les classiques avec le Mahabharata, sont très demandés. C'est un tournant de ces 10 dernières années.
So they have come up in a big way. So that's the difference the last 10 years.
Ce tournant dans la littérature indienne, Bulbul Sharma l'a aussi remarqué. Auteur de langue anglaise vivant en partie à Goa et traduite en français pour ses nouvelles et romans féministes et culinaires, l'écrivaine se réjouit de la vitalité éditoriale.
Writing in India is so varied, you know, everybody is, and it's so rich now.
La littérature en Inde aujourd'hui est tellement variée, tellement riche désormais, que c'est incroyable. Soudainement, il y a eu de nouveaux écrivains avec des nouvelles voix, des jeunes, et par exemple, les homosexuels, les intouchables, qui jusqu'ici n'étaient pas écoutés. La presse générale ne parlait jamais d'eux, mais ce n'est plus le cas. Aussi parce qu'il y a plus d'une centaine de festivals littéraires dans le pays. Et partout où je vais, on les entend s'exprimer avec force, c'est très sain.
So it's a very healthy situation now. When I started, I was doing books, short stories, mainly short stories about women.
Moi, j'ai commencé en écrivant des nouvelles, principalement sur les femmes et celles à qui on ne donnait pas la parole, les générations d'avant, celles de ma mère, ma grand-mère. Ensuite, j'ai écrit des livres pour les enfants, des méthodes scolaires, et récemment, mes dernières publications sont des romans policiers. Les éditions Penguin m'ont demandé d'écrire un livre sur Goa, et j'ai décidé que ce serait un roman à énigmes. Je me promenais dans les rues de Goa, sans savoir ce que j'allais écrire, mais je ne voulais pas faire un livre sur l'histoire de la ville. Et par hasard, je suis allée dans une maison de retraite pour apporter des livres et des vêtements. Et là, j'ai rencontré quatre vieilles personnes qui vivaient dans cet endroit tenu par des missionnaires et elles étaient pleines de vie, pleines d'énergie, à sautiller partout alors qu'elles étaient dans une maison pour personnes âgées. Et j'ai décidé de leur offrir une affaire de meurtre à résoudre et c'est comme ça que cet endroit m'a inspiré le roman. J'espère qu'il sera traduit en français. C'est un divertissement policier facile à lire qui se déroule à Goa.
It's a very light-hearted, easy to read murder mystery set in Goa.
Raconter l'Inde à travers son actualité, voire ses crises, c'est le choix de Gitanjali Shri, romancière et femme de théâtre. À la périphérie de Delhi, l'auteur, en langue hindi, reconnaît écrire en miroir de son regard.
The contemporary world, I would say. It's the life around me and whatever of that.
C'est la vie contemporaine qui m'inspire, la vie autour de moi et tout ce qui me concerne et m'émeut. Le communalisme, par exemple, et les relations entre les hindouistes et les musulmans, un sujet très sensible en ce moment en Inde. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui touche à mon éducation. Je viens d'un milieu où tout le monde vivait ensemble, à la fois en harmonie, mais aussi avec des conflits. Les deux existaient. J'ai connu ça à la fois, l'amitié et les préjudices.
And that is what I have known, you know. I have known friendships and I have known prejudices. India is very much a country of divisions of all kinds.
L'Inde est un pays de divisions de toutes sortes, sans pourtant que l'on soit d'accord. Mais cela me dérange, ces préjudices envers l'une ou l'autre communauté. Donc j'ai écrit à ce sujet avec des personnages incarnant ces problèmes.
So I have a whole novel. Which is the only one not translated into English.
It's tout un roman, qui d'ailleurs est le seul à ne pas avoir été traduit en anglais, avec des personnages hindouistes et musulmans qui ne souscrivent pas à cette division, mais qui sont pris au piège de cette situation. Donc c'est un roman que je trouve pertinent, en même temps difficile, mais malheureusement qui n'est pas traduit encore.
Donc la situation d'aujourd'hui vous inquiète?
Here in India? Certainly, very, very much so. Even now, there are people, and I think I'm one of them. I don't want to give up hope.
Certainement, énormément. Même s'il y a des gens dont je fais partie qui ne veulent pas perdre espoir. Je pense que notre société est pluraliste depuis des siècles. Le pays est immense, c'est presque un continent. Il y a toujours eu toutes sortes de personnes, toutes sortes de religions. Donc on croit toujours qu'en Inde, le fondamentalisme n'arrivera jamais à s'imposer parce qu'il y a une vraie diversité. Mais aujourd'hui, c'est très inquiétant de voir que le fondamentalisme est là, qui domine, sans qu'on s'en préoccupe. Les gens disent non, c'est seulement une phase, ça ne durera pas, ça va s'arrêter. Je ne sais pas, je l'espère. Mais en tout cas, tant qu'il est là, il fait beaucoup de dégâts. Il abîme ce qui est beau dans notre culture. Et ce n'est pas une consolation d'entendre que c'est pareil dans le monde entier. Je suis opposée au fondamentalisme et à la rigidité de toutes sortes. Laissons vivre les gens comme ils sont, cessons les conflits entre nous. C'est ma position, je crois au sécularisme, à la liberté de culte et à la liberté.
Let people live in different ways and not, you know, be in conflict with each other and harm each other. So that is where I stand, yeah.
I believe in secularism, pluralism and freedom.
Hail Aryabhat. Giving your life for your work is like giving your life for Aryabhat. Always be ready to sacrifice your life for Aryabhat.
Did you not get married to someone outside of your own community?
Smile.
Les tensions entre religions en Inde ont aussi inspiré le jeune écrivain Prayag Akbar, auteur d'un roman en anglais intitulé Laila, une dystopie dans un régime totalitaire qui interdit relations entre hindouistes et musulmans. Un livre qui a eu un fort retentissement, qui a été adapté en série sur Netflix, reflétant les nombreuses inquiétudes concernant l'ingérence du pouvoir dans les différentes confessions.
My book is all about this. You know, it's become a political.
C'est tout le sujet de mon livre. C'est devenu un instrument politique. Les hommes politiques s'en servent pour raviver les tensions, affoler les gens, pour les faire voter pour eux.
Get people riled up, get people, you know, voting for them, and that's when it becomes really dangerous and has lots of repercussions.
Et c'est là que cela devient vraiment dangereux, avec de nombreuses répercussions sur la vie des familles au quotidien, donnant la permission ou pas d'être avec qui l'on veut.
I'm in a mixed marriage. Myself, my wife is Hindu. I'm a Muslim man.
Mon propre couple est mixte. Ma femme est hindoue et je suis musulman. Ni l'un ni l'autre ne sommes pratiquants. Mais on a un fils jeune et je me demande dans quel pays il va grandir. Moi, je n'ai pas grandi dans une atmosphère aussi rédhibitoire. J'adore mon pays et je ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Mais je me pose des questions parfois sur l'avenir. C'est un livre que j'ai écrit les yeux ouverts en regardant ce qui se passe en Inde.
Yeah, I wrote it, you know, keeping my eyes open about things that happen in India.
Et qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Well, my book is about a lot of class disparity. When you walk outside and you see it.
Mon livre est aussi sur la disparité des classes sociales. Ça saute aux yeux ici. La pauvreté, la désolation, la tristesse. Je dis ça aussi parce que lorsqu'on grandit en Inde, on s'entraîne à tourner le dos aux nécessiteux, on s'endurcit face à la pauvreté, car on la voit partout, tous les jours. Et jusqu'où va l'empathie? Et ça, ça paraît un problème insurmontable. On est incapable depuis des centaines d'années de changer quoi que ce soit. La misère empire, les écarts s'aggravent. C'est pourquoi ces disparités sociales sont au cœur de mes livres. La question des castes, des fractures géographiques. Et l'une des caractéristiques de l'Inde, ce sont les ghettos. Nos villes deviennent des ghettos, avec d'un côté des privilégiés qui vivent entre eux. C'est le cas aussi partout dans le monde. Et de l'autre, des gens vraiment pauvres qui sont dans la rue, sur les routes, au croisement. À Mumbai, vous avez certainement vu les gens sous les ponts près des rivières. C'est inhérent à notre société et je trouve que c'est vraiment dur à accepter. Et je voudrais que nous regardions ça en face et que nous y réfléchissions.
I found it very hard to accept and I wanted to write about it and I wanted us to look at it, like to think about it.
Les fractures sociales, géographiques et culturelles engendrent ainsi des enjeux de territoire terribles en Inde. C'est le cas de la communauté des Adivasis, dont fait partie la poétesse Jacinta Kerketa, traduite en français, et qui nous rappelle ce pourquoi luttent les siens.
Adivasi peoples are fighting for to save their land, to their forest.
Le peuple Adivasi se bat pour garder ses terres, ses forêts et contre la déforestation de la jungle, car ils dépendent des forêts. Ils veulent sauver les montagnes, car pour eux, ce sont comme des dieux. Ils veulent sauver les rivières, leur culture, leur langue, leur identité, sauver leur existence. C'est un combat qui se joue aujourd'hui dans toute l'Inde.
Vous êtes devenu écrivain pour être aux côtés de votre peuple?
Oui, parce que j'ai vu dans mon village ce qui se passait au nom de la terre. Et j'ai vu mon oncle se faire tuer. C'est pour cela que je suis devenue journaliste. Mais quand je suis venue travailler en ville, je n'étais concentrée que sur la ville, incapable d'écrire sur mon village, sur cette lutte que les miens menaient.
So I left my job
Donc j'ai démissionné et j'ai commencé à faire le tour des villages. Et en voyant tout cela, je me suis mise à écrire des poèmes, des histoires et très vite, j'ai retrouvé mes racines. Parce que lorsque vous quittez votre village et que vous vous installez en ville, la plupart des gens oublient jusqu'à leur langue maternelle. Et moi aussi, j'ai oublié ma langue maternelle, donc je l'ai réapprise. C'est la langue Kourouk. Et toutes ces luttes, je les raconte dans mes poèmes. Ça me permet de mieux comprendre la vie.
Est-ce que vous vous définissez comme une auteure de la résistance?
Yes, I think because now people are understanding, you know, what exactly we feel. Because so many years.
Oui, je le crois, parce que maintenant les gens comprennent exactement ce que l'on ressent. Avant, c'était les communautés majoritaires qui écrivaient sur nous, mais personne ne nous écoutait. Donc maintenant, mes poèmes sont lus dans les manifestations, utilisés aussi dans des programmes. Et je pense que par la poésie, en tous les cas, c'est ce que je me dis, non seulement les gens comprennent la situation, mais ils la ressentent également.
So many people told me that not only with brain we are trying to understand situations, but now we can feel it.
À Calcutta, la montée des violences inquiète également l'écrivain Srijato, comme en témoignent certains de ses poèmes, dont l'auteur nous lit un extrait ici, dans sa langue maternelle, le bengali.
Andhokar likha guccho ek. না তুমি অক্ষত আছো আঁচড়ও লাগেনি যা হয়েছে দূর দেশে পাশের বাড়িতে জীবিতের ধর্ম বহু মৃত এক শ্রেণীর সেহেতু সুবিধে হয় মাথা গুনে নিতে যেসব মাথার কোনো ধর নেই আর তাদের কথার দায় কে নেবে তাহলে তোমার শহর শান্ত নিষ্পৃহ বাজার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয় অন্য কথা বলে তুমিও তো অন্য লোক অন্য কোনো নামে বেঁচে আছো জুড়ে থাকা ধরেও মাথায় জল গড়ায় বহুদূর রক্ত কিন্তু থামে সে কি বলছে ভুলে যেতে ডাকছে না তোমায় যে এখনো ভেবে দেখছো পথে নামবে কিনা আমি তার মনুষ্যত্ব স্বীকার করি না ইটস কল্ড অন্ধকার লেখাগুচ্ছ উইচ মিনস দ্য পোয়েমস ফ্রম দ্য ডার্ক টাইমস ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পোয়েম দ্যাট আই রাইট আফটার দ্য ব্লগার দ্য ইউএস বেসড Bangladeshi blogger Abhijit Roy was butchered.
Cet extrait d'un recueil qu'on pourrait traduire par « Poème des temps obscurs ». C'est le quatrième poème que j'ai écrit après la mort d'un des blogueurs assassiné sauvagement au Bangladesh dans la rue, en plein jour. Je me suis mis à écrire de la poésie pour parler d'eux. C'est impossible, quand on est une personne attentionnée, quand on est citoyen et poète, d'écrire des poèmes sur des fleurs alors qu'il y a des cadavres sur votre route. Quand on est écrivain, artiste, il faut regarder le monde en face, car les blogueurs, les penseurs finiront aussi par être assassinés en Inde.
Thinkers in India were murdered also at that time. And if you look at the whole world, the freedom of speech is very, very threatened.
Et si vous regardez autour de vous, la liberté d'expression est vraiment menacée. Et pas seulement en Inde, au Bangladesh ou dans tout le sous-continent. C'est sur toute la planète, je pense. Donc j'en parle dans mes poèmes. Et dans celui-ci, je dis que nous sommes d'un pays voisin. On a l'impression d'être à l'abri, mais on ne l'est pas, parce qu'à quelques kilomètres de nous, un homme est tué pour avoir dit la vérité. Donc, si vous ne vous levez pas aujourd'hui pour protester, c'est vous qui serez visé par la prochaine attaque. C'est ce que je dis d'une manière plus poétique.
So, if you do not come up with protest now, the next attack will be on you. That's what it tells in a more poetic way.
La menace physique, l'écrivain tamoul Perumal Murugan en a été personnellement victime avec son roman Madhurubagan, dont il nous présente le contenu.
Au premier abord, c'est un roman qui parle de la vie agricole, sans aucun problème apparent. Mais dans ce monde, il est aussi question des valeurs dans la société tamoule et de la structure des castes. Et quand on en parle, ça peut devenir un sujet de controverse.
Et en effet, la controverse est arrivée. Stigmatisé dans son village, expulsé de chez lui par la police, déféré en justice, l'auteur a été traumatisé, comme le confirme son éditeur, Kanan Sudaram.
Now he felt that if he has to apologize for the novel he writes,
Quand il a compris qu'il fallait qu'il s'excuse pour son livre, alors il ne pouvait plus être écrivain. Donc le soir même, il a posté sur les réseaux sociaux cette phrase « Perumal Murugan est mort ». Ça a fait le tour du monde et c'est devenu un sujet international. Voilà ce qui s'est passé.
Pourtant, Perumal Murugan est revenu sur sa décision plus tard. Explication de l'écrivain tamoul.
En juin 2016, après un recours, la Cour suprême a rendu son jugement, un verdict en faveur de la liberté d'expression qui disait « Vous pouvez rentrer chez vous et écrire ».
Et si ici l'histoire se finit bien, cet exemple de pression sur un écrivain n'est pas isolé. C'est le constat de la sociologue Malvika Maheshwari, auteure d'un essai intitulé « Heart Attacks », sous-titré « Violence and Offense Taking in India ».
Mon livre s'intéresse à la montée grandissante de la violence physique et des attaques en Inde contre les écrivains et les artistes en général depuis la fin des années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Et la question cruciale que pose le livre est de savoir ce que ce phénomène dit de la démocratie indienne.
C'est un tableau assez inquiétant que vous nous présentez de la situation des artistes ici en Inde, donc qui sont sujets à des violences plus importantes qu'auparavant. Est-ce qu'on peut en déduire que ici, depuis peu, finalement, la liberté d'expression est encore plus en danger ?
Yes and no, and I think that's what the job of a social scientist is, to show us the complexities.
Oui et non, et c'est le métier du sociologue de montrer ces complexités. Donc oui, d'un côté, ces attaques nous disent qu'il y a un étranglement de la liberté d'expression, qu'il y a de la peur, de l'autocensure. Mais, et c'est très très important, en retour il y a eu de fortes protestations contre ces attaques. Les écrivains et les artistes en général ont répondu à ces attaques. Ils sont allés en justice, ils se sont battus et sont devenus activistes. Ils ne se sont pas laissés apeurer, ils ne sont pas restés sans rien faire, ils ont fait front individuellement et collectivement.
La deuxième chose très importante qui doit être acknowledged est que historiquement,
la deuxième chose à souligner, c'est que historiquement, à chaque fois que la liberté d'expression est menacée, en particulier celle des écrivains, cela donne naissance à une nouvelle forme de créativité. Ainsi, les artistes font preuve d'ironie, font appel aux métaphores, au sarcasme en réponse. Donc je ne dirais pas que cela va dans un seul sens et que l'Inde n'est plus désormais une démocratie et qu'on ne peut plus rien dire. Bien sûr que ce n'est pas vrai, c'est inquiétant. Mais la société civile a réagi à ces attaques, ce qui est réconfortant pour notre démocratie.
About the democracy.
Mais en même temps, pour rester sur le terrain de la littérature indienne, est-ce qu'on peut dire que néanmoins certains auteurs sont quand même un peu inquiets de la réception de leur œuvre, que de fait il y aurait presque une littérature à deux vitesses ici en Inde, ceux qui osent s'opposer et ceux qui écrivent mais dans une forme en effet d'autocensure?
Yes, absolutely. And I think it's not just the writers who are doing that.
Oui, absolument. Et pas seulement les écrivains. Il y a aussi toute l'industrie du livre qui est concernée. Les éditeurs, les promoteurs, les acheteurs. Donc oui, bien sûr, et c'est partout pareil. Il y a ceux qui font de l'autocensure, qui cèdent à la pression, qui parlent et écrivent dans la langue du pouvoir, et d'autres qui résistent. Et de mon point de vue, cette résistance est aussi forte en Inde que l'autocensure.
So that resistance is as strong in India, I feel, as the self-censorship.
Résister, c'est le mot d'ordre d'Arpita Das. À New Delhi, elle a fondé les éditions Yoda et son catalogue est la preuve vivante de sa volonté de publier des livres en lien avec des questions sociétales en Inde, par exemple l'homosexualité et plus largement les communautés LGBTQ, sujet tabou même si récemment dépénalisé.
Oui, le domaine qui m'intéressait vraiment était la littérature LGBTQ, qui à cette époque commençait tout juste en Inde, en particulier à New Delhi au début des années 2000. Et je savais par des amis de cette communauté qu'il y avait de nombreuses voix brillantes. Mais personne ne voulait les publier.
I think a lot more people
Parce que beaucoup de gens prétendaient que ce n'était pas un problème chez nous et que ça venait de l'Occident, ce qui est idiot bien sûr. Et nos livres veulent en finir avec ce mythe que ça fait partie de la vie partout dans le monde entier, que c'est naturel autant que l'hétérosexualité. Et si vous êtes LGBTQ, ce n'est pas par choix, c'est de naissance. Et je pense que mes livres ont joué une part dans la compréhension générale de ces 15 dernières années.
My books, Yoda Press books, have played a small role in making people understand that over the last 15 years.
And making et ont changé la société indienne.
I know that sounds really like I'm bragging. So I
je sais que ça va paraître prétentieux, mais oui, il y a un épisode qui nous a rendus très fiers. Quand au moment du jugement de la Cour suprême, 5 de nos livres ont été cités. Donc oui, à notre petite échelle, on change la société.
So, you know, in a small way, changing society. Yes, yes.
In what language? Et en quelle langue publiez-vous?
70% of it is in English, but there is the 30% of the list which is in Hindi.
70% en anglais et 30% en hindi, dont la plupart sont les traductions de nos livres LGBTQ, pour que ceux qui sont concernés mais ne peuvent lire que cette langue puissent avoir accès à ces livres en hindi.
And they can only at the moment access Hindi, if at all. So we try to translate those to Hindi.
From your point of view, c'est quoi un bon livre indien?
A good Indian book is one that's telling the truth.
C'est un livre qui dit la vérité, parce que de nos jours, on est non seulement cerné par des fausses informations, mais aussi par la propagande, politique, médiatique. Donc je recherche des livres qui disent la vérité, et je n'ai pas peur de les publier. Je les porte haut et fort.
And are not scared to do so, are not trying to beat about the bush to do so. They're saying it up front and loudly.
L'édition est aussi la profession de foi de Navin Kishore, fondateur à Calcutta de Seagull Books, une structure implantée également à Londres et à New York. Il propose des livres d'art de toute beauté, riches d'un catalogue où la littérature française des 5 continents tient une place importante. Cet homme de goût a une conception très humaniste de son métier.
For us, the business of publishing is not only about money and commerce.
Pour nous, le métier d'éditeur, ce n'est pas seulement de l'argent, du commerce. Oui, il y en a, mais le plus important, c'est de ne pas prendre les lecteurs pour cible. C'est autre chose, une autre façon de voir la vie. Je publie des auteurs, pas seulement des livres. Si le livre ne marche pas, mais que vous croyez en l'auteur, il faut faire son livre suivant, puis un autre, et encore un autre. Parfois, la qualité est au rendez-vous, parfois non. Par exemple, nous avons publié 14 livres de Pascal Quignard, une douzaine de Yves Bonnefoy. Et ça prend beaucoup de temps. Mais ces livres finissent par trouver leur place sur le marché. Le marché les trouve, mais c'est long. Ça nous a pris 38 ans pour en arriver là.
Et tous ces beaux livres, ils coûtent plus cher pour les lecteurs?
Non. Pas nécessairement si vous regardez nos prix. En fait, on subventionne les livres et on baisse les prix à hauteur du marché indien, dans l'espoir que le dollar américain compense le taux indien, car les prix en Inde ne peuvent pas être trop élevés. Donc, un livre à 20 dollars, on le vend ici 5 dollars. On fait d'énormes remises, car c'est la réalité indienne.
Et c'est ici que s'achève notre voyage en Inde, notre immersion dans l'immense marché littéraire du sous-continent, en attendant, on l'espère, le retour des écrivains indiens en France prochainement. Ces deux grands reportages que vous pouvez réécouter sur le site de RFI.fr à la page podcast Littérature sans frontières ont été réalisés grâce à l'Institut français et à l'équipe de Christine Cornet à New Delhi.